Françoise NTP, un crayon pour les Amazones.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Femme, noire, architecte, c'est pas un slogan, mais pour la pub, il paraît que c'est un bon début. Ah si, 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 c'est... aujourd'hui c'est vendeur. Diplômée de l'École spéciale d'architecture de Paris, lauréate 2001 du prix des nouveaux albums des jeunes architectes, Françoise NTP a œuvré pour le réaménagement de l'Hôtel de la Monnaie à Paris ou la réhabilitation de l'École d'architecture de Versailles. Et puis un beau jour de 2017, elle a fondé sa propre agence, Françoise NTP Architecture et Design. Et puis, à l'heure qu'il est, elle souhaite se positionner en tant qu'architecte issue de la diversité. Il n'y a qu'à regarder ce gros dossier sur son bureau concernant le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey au Bénin. L'occasion qui fait le larron en sol majeur pour venir évoquer son Douala de naissance et ses aéroports de tous les jours. Quel aéroport, là, ou dans quelle banlieue du monde vous pensez ? C'est vrai que ça fait un peu ça. Bonjour Françoise NTP.
Bonjour Yasmine.
Que vous évoque Massive Attack que vous avez programmé pour en sol majeur ?
Massive Attack m'évoque beaucoup, beaucoup de souvenirs. J'ai connu ce groupe musical, on va dire, dans mon adolescence. Et c'est amusant, vous parlez justement d'aéroport ou de voyage, mais c'est parce que quand on... Je ne sais pas si vous avez vu le clip vidéo, mais en fait c'est un travelling... Dans une rue, on voit cette femme qui chante et ça peut être dans une banlieue, dans n'importe quelle banlieue américaine ou anglaise, je ne sais pas. Et ce morceau-là, en fait, j'ai toujours été hypnotisée en fait.
Est-ce que vous, l'architecte qui concevait donc des bâtiments, vous vous souvenez de ce à quoi ressemblait la maison de votre enfance ?
Très difficilement. Je m'en souviens un peu en voyant aussi des photos. Je suis née à Douala, au Cameroun, dans, on va dire, le village de Bonapriso, qui était la chefferie de mon grand-père. Et donc, il y a effectivement une maison familiale qui existe toujours sur place. Et ce n'est pas forcément, on va dire, une architecture remarquable, mais c'est une grande demeure, quoi, une demeure familiale avec ses jardins, sa cour où tout le monde se réunit et tout ça. Donc, c'est un peu l'image que j'ai de cette maison, en fait, une maison familiale.
L'été dans le poste, hein, avec une machine à coudre, ce monsieur Linéa qui était ce personnage râleur qui se déplaçait sur une ligne horizontale au gré du crayon du dessinateur et puis la tondeuse à gazon. À quoi sont associés ces sons que vous nous avez soufflés à l'oreille, oui. Françoise Ntépé ?
Oh bah, en fait, ce sont des sons de mon enfance. Je suis arrivée à Paris quand j'avais 2 ans et j'ai vécu dans le 15e arrondissement, dans une résidence au pied de la Tour Eiffel pratiquement. Et en fait, les bureaux et les tondeuses, c'était un peu ça. C'est-à-dire régulièrement, donc avant l'été, il y avait le jardin qui était entretenu. Il y avait un très grand jardin derrière l'immeuble et qui était entretenu. Donc.
Puisqu'on en est aux souvenirs, est-ce que la langue douala fait partie de vos souvenirs ?
Oui et non. C'est vrai que malheureusement, je n'ai pas pu apprendre mon dialecte natal, mais je l'entends toujours. Et...
Vous dites dialecte ?
Oui. C'est un dialecte, oui, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies différentes et chacune ont leur dialecte.
Dites pas langue.
Non, c'est pas une langue parce qu'on va dire que le Cameroun, on parle la langue française, la langue anglaise.
Vous n'allez pas faire plaisir à vos compatriotes.
Hein. Pourquoi ? Moi, je trouve c'est pas un terme péjoratif pour moi du tout. Enfin, au contraire, j'aurais vraiment voulu apprendre à parler mon dialecte natal. Malheureusement, j'ai pas pu. Ma mère a pas pu me transmettre ça. Mais du coup, j'ai quelques sons, quelques bribes de mots que je connais, ou surtout des mots affectifs, en fait, comme disait. Et c'est tout, malheureusement.
Qu'est-ce que le mot visa évoque pour vous ?
Le visa, ça évoque pour moi un peu les difficultés qu'ont les étrangers, en tout cas en France, pour ceux qui ne sont pas naturalisés, à devoir tout le temps se battre pour acquérir leur carte de séjour ou pouvoir entrer sur le territoire, etc.
Ça a été votre cas, vous ?
Non, moi j'ai été un peu privilégiée, parce que, même si pendant très longtemps j'étais camerounaise et pas française.
Vous avez été française à quel âge ?
J'ai été française. Sur le tard, je crois que c'était vers 18 ou 19 ans, sachant que j'aurais pu l'être avant, en fait. Je l'ai découvert assez bizarrement, justement en voulant refaire mes papiers. Donc ma mère, pour faire l'histoire, était fonctionnaire à l'UNESCO, ce qui m'a aidé moi parce que du coup, j'avais un passeport diplomatique et donc c'était beaucoup plus simple pour avoir ses papiers. Mmh. Et donc pas de problème de visa, on va dire. Mais par contre, ce que j'ai appris après, par la suite, c'est que mon grand-père était diplomate et avait eu acquis la nationalité française. Ma mère ne le savait pas. Enfin, c'est en cherchant à Nantes, c'est là où on fait les papiers, etc., qu'ils ont trouvé que, en fait, mon grand-père avait acquis la nationalité française. Donc, je pouvais l'avoir, fait.
C'était resté secret.
C'était. Je sais pas comment ça s'était perdu, cette information. Mais moi, je sais que ma mère... c'était un peu brouillé avec mon grand-père à une époque, mais je ne pense pas que ce soit lié à ça, en fait. Du coup, j'ai dû choisir. Je ne pouvais pas avoir la double nationalité, parce que le Cameroun refuse. Et j'ai dû choisir. Donc, étant donné que je vivais en France, j'ai pris la nationalité française à ce moment-là.
Mais je vois que c'est un crève-cœur d'avoir...
Oui, parce que je trouve que c'est important de savoir d'où on vient et de pouvoir le montrer, quoi, même officiellement. Voilà, là, je suis, on va dire, un peu amputée d'une partie.
On est originaire de Douala, du côté maternel, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et du côté paternel ?
Alors, mon père est plutôt originaire du Nord Cameroun. Il est descendant de l'ethnie des Peuls, Foulbé.
Et alors, donc, cette culture, vous avez une double culture.
De fait, je suis métisse voilà. Camerounaise.
Douala et Peuls, est-ce que c'est resté un peu dans la boîte à secrets, cette culture?
Oui, parce que je n'ai pas vécu avec mon père, donc je n'ai pas pu vraiment connaître, on va dire, mon côté paternel. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui me manque en soi, pas plus que ça, non.
Alors, je sais pas si au fil du temps, les chefferies ont perdu de leur influence au Cameroun. J'ai l'impression que oui, mais il faut se méfier. Mais vous, est-ce que vous considérez que la loi doit l'emporter sur la coutume, Françoise Ntépé?
Waouh, ça c'est une question qui est pas simple. J'ai tendance à dire que oui, parce que les deux se complètent pour moi, en fait. Et c'est vrai que s'il faut choisir entre la loi et les coutumes, je pense que la loi a ce caractère fédérateur finalement et de pouvoir mettre en commun différentes cultures, du coup différentes coutumes. Donc c'est une sorte de synthèse, je ne sais pas si c'est le bon mot, et je penserais plutôt que c'est important que ce soit la loi d'abord. Ouais.
Mon arrière-grand-mère a été esclave, libérée à 16 ans, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle vivait dans une case en paille, dans les bois. Un jour, elle a confié ses enfants qu'elle adorait à des prêtres qui ont fait d'eux des nègres instruits. Mais l'un des fils, mon grand-père, ressentait mal le fait d'être noir. Il rejetait la pensée même d'être descendant d'esclaves. Lui, qui avait un gros bagage intellectuel, disait toujours « J'aide les nègres à porter leur peau ». Voilà, ça c'est une parole autour de l'esclavage qui a été recueillie par le journaliste Serge Billet. Car si on reste une petite seconde dans la cour commune de votre histoire familiale, Françoise Ntépé, quel lien il y a entre vous et l'histoire de l'esclavage?
C'est pas tant une histoire de... Enfin, l'esclavage à proprement parler, c'est-à-dire la traite commerciale, etc. C'est effectivement plus comme cette citation qui disait que on veut rejeter ou en tout cas on veut changer le fait d'être noir. Et ça, je l'ai un peu vécu et je l'ai senti dans mon environnement familial parce que, comme je disais, mon grand-père a été diplomate, il a souvent voyagé. Du coup, pour sa famille, en tout cas ses enfants, dont ma mère, il leur a, on va dire, imposé de s'éduquer en Europe, qu'il fallait s'intégrer.
Choisir son camp.
Ouais, c'est ça, choisir son camp et s'éduquer en tout cas, chez l'autre.
Vous l'avez compris, appris sur le tas ?
Oui, je l'ai compris. C'est pas un reproche du tout, parce que je le vis bien, hein, mais je l'ai compris sur le tas, oui. Parce que ma mère, en fait, a presque quelque part refait le même schéma après avec mon frère et moi. Mmh. En fait, c'était un choix.
Donc, quand vous entendez parler de cette histoire autour de l'esclavage, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, des études, des documentaires, etc., autour de la colonisation aussi, allemande, britannique, française, concernant le Cameroun, c'est quelque chose qui vous ramène, vous, à cette aliénation, finalement, à ce que cette histoire a produit jusqu'à votre grand-père et jusqu'à vous. Et là, je sens que c'est déjà moins tranquille qu'il y a 5 minutes.
C'est pas toujours très clair, ouais, c'est sûr, c'est... Moi, je dirais quand même que c'est une chance, mais ça a été fait tellement dans la douleur que, après, malheureusement, comme beaucoup de familles en Afrique, moi, j'ai pas un grand retour sur mes ancêtres. Je connais pas mes ancêtres au-delà de mon grand-père, donc je sais pas exactement si eux, ils ont eu à subir l'esclavage ou pas. Mais c'est quelque chose finalement qui revient aujourd'hui, qui je trouve est assez lourd à porter. Dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire ceux qui l'ont subi et ceux qui ne l'ont pas subi finalement, parce qu'ils se retrouvent à se dire est-ce que j'ai eu de la chance de ne pas l'avoir subi? Est-ce que je suis coupable de quelque chose? Est-ce que voilà, c'est très compliqué. Et ça m'intéresse d'autant plus aujourd'hui parce que j'ai des sujets professionnels qui m'ont amené à m'intéresser d'autant plus à la question de l'esclavage, notamment pour un projet de musée au Bénin.
Oui, dont on va parler, donc justement, c'est important. C'est-à-dire que ça vous revient quand voilà, même, que vous vouliez ou non,
après.
Dans les tiroirs professionnels. Là,
oui.
Et alors ?
Eh bien, ça revient au bon moment, quelque part. C'est assez drôle, hein, comme quoi la vie est bien faite, parce que c'est juste au moment où j'ai voulu un peu revoir ma façon de me positionner en tant qu'architecte. Mmh. C'est vrai que j'ai toujours été intéressée par... ces questions-là en fait, des peuples qui ont vécu des souffrances extrêmes, par exemple, quand j'ai appris en France la déportation des Juifs, quand j'ai appris, quand j'étais au Canada, la façon dont les Amérindiens ont été traités. Enfin, tout ça, ça m'a toujours bouleversée. Et du coup, là, ça me permet de me repositionner en tant qu'Africaine sur mon propre territoire.
C'est vrai que ça fait du bien d'être une petite minute en sol majeur à Douala, donc capitale économique du Cameroun, avec ses vendeurs, avec ses chanteurs, ses crapauds buffles. Je ne savais pas moi qu'il y en avait au Cameroun. Donc vous nous disiez, Françoise Ntepe, que vous êtes partie à 2 ans de Douala, vous êtes née en 73, vous avez rejoint Paris. Et du coup, la question qui se pose, c'est quelle relation vous avez avec cette terre de naissance ?
La relation principale, elle est familiale aujourd'hui. Parce que j'ai encore une grosse partie de ma famille et mon père quand même qui sont à Douala. Donc, et puis j'ai des amis aussi maintenant que j'ai connus même après en France, mais qui sont retournés au Cameroun. Donc c'est vraiment une relation familiale et amicale que j'ai avec ce pays aujourd'hui. J'aimerais bien pouvoir y travailler. J'espère un jour pouvoir y arriver. Mais pour l'instant, les opportunités ne sont pas encore tout à fait présentées. J'ai des pistes, mais voilà, c'est long.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez décoré votre maison ?
Une question pas trop difficile pour celle qui a failli devenir architecte d'intérieur.
Sachant que je vis dans un appartement. Déjà.
Allons-y.
Elle est très simplement décorée. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien l'espace et un peu le vide. Donc, je n'ai pas beaucoup d'objets. J'ai ce qui est fonctionnel. Quelques décorations, des tableaux, beaucoup de tableaux, enfin des choses liées à l'art, parce que je suis assez sensible à l'art contemporain.
Ouais. D'art contemporain.
Donc, quand je peux me l'offrir, je m'achète quelques pièces.
Ouais, par exemple
Des tableaux, soit de la peinture, de la photo aussi, beaucoup.
Alors, si on prend juste la peinture, vous avez des tableaux de maître ?
Oh là ! Non, je ne suis pas une héritière. Non, j'ai des tableaux qui pourraient peut-être devenir des tableaux de maître après. Hein. Après, j'ai acheté de la peinture dite contemporaine.
Vous, l'amoureuse des impressionnistes, apparemment.
Oui.
Des post-impressionnistes comme Toulouse-Lautrec, Claude Monet.
Claude Monet. Oui, j'ai eu une éducation classique, en fait, de la peinture. Et ça reste dans mes références et dans mes acquis. En tout cas, le travail de la couleur, de la matière sur la toile, etc. C'est des choses qui m'intéressent toujours.
Alors, vous nous disiez que vous étiez fan de photographie. Effectivement, on m'avait cité un certain Lewis Balz.
Oui.
Est-ce que lui qui photographiait dans les années 70, 80, non, 60-70
oui.
plutôt, les zones industrielles et on va dire l'urbanisation exacerbée des États-Unis, est-ce que ça a pu influencer votre œil d'architecte même ?
Complètement, en fait. Il avait une vision très esthétique, finalement, souvent des photos en noir et blanc, très contrastées. Et c'est vrai que c'est des paysages très durs, mais les cadrages qu'il en faisait deviennent des vrais tableaux, enfin des vraies images construites. Et du coup, ça a permis pour moi d'avoir un autre regard sur ces quartiers, en tout cas sur ces zones industrielles délaissées.
C'est-à-dire que vous y voyez de l'esthétique aujourd'hui ?
J'y vois une certaine beauté. Ouais. Dans certains endroits, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes et qui me nourrissent dans mon travail aussi, oui.
Alors, parmi vos fréquentations, entre guillemets, artistiques, il y a aussi l'immense sculpteur britannique d'origine indienne, reconnu internationalement, Anish Kapoor, dont les œuvres, on va dire, s'intéressent souvent à des images réfléchissantes de nous-mêmes ou épousent des formes concaves.
Objects are, I believe, illusory.
Les objets sont illusoires, je crois.
They are never what they at first appear to be.
Ils ne sont jamais ce qu'au premier abord ils paraissent.
We look at them.
On les regarde la plupart du temps
love, hate, desire,
avec amour, haine, désir ou dégoût.
The viewer is involved. There's always a conversation.
Le spectateur est impliqué. Il y a toujours une conversation.
And one of the things I think I've tumbled into in my process.
Et l'une des choses que j'ai intégrées à mon procédé
is that kind of uncertainty of what the object is.
Et cette espèce d'incertitude sur ce qu'est l'objet.
Polished objects have been around in art for a very long time.
Les objets polis sont présents dans l'art depuis très longtemps.
But they were all convex.
Mais ils étaient tous convexes.
I've been working with concavity.
Je travaille sur la concavité.
And what it has is a focus.
Et cette forme a un point de convergence.
It magnifies and turns everything upside down.
Cela magnifie et inverse tout.
And at that point, there is a sense of vertigo.
Et arrivé à ce point, il y a une sensation de vertige.
We think of geometry as knowable.
Nous considérons la géométrie comme connue.
The interesting thing about geometry, however,
ce qui est intéressant cependant avec la géométrie, c'est quand elle atteint le énième degré de savoir. Elle devient inconnaissable.
Pour un sol majeur, l'illusion des objets perçus un peu par le prisme de nos émotions, c'est ce que je crois comprendre entre autres des mots de l'immense Anish Kapoor qui a un peu trop lu Lewis Carroll, hein, mon ami. Et qui vous séduit pour quelle raison, Françoise NTP?
Je ne saurais pas le dire, en fait. C'est presque charnel, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Et c'est des pièces qu'ils font, effectivement, ont ce côté-là un peu hypnotique.
Ils travaillent notre illusion d'optique, en fait.
Complètement, oui. Mais pas que. Effectivement, dans ces formes concaves, polies, oui. Mais dans d'autres, non. C'est plus vraiment un travail en trois dimensions, c'est presque comme des trous noirs qui vous englobent complètement et vous ne savez plus du tout où vous êtes. Et je trouve que pour ça, c'est assez magique. Il a une façon de distordre un peu l'espace qui est assez phénoménale.
Mais alors vous, l'amoureuse de l'art contemporain, parce que c'est la question, il y a de l'art aussi dans l'architecture.
Oui.
On le sait bien quand vous vous retrouvez dans votre bureau en train de dessiner. Est-ce qu'un Anish Kapoor ou même une Pina Bausch, parce que vous aimez beaucoup cette grande chorégraphe allemande, en quoi l'art contemporain, l'art sous toutes ses formes, peut influer au moment de dessiner un bâtiment, de choisir une optique plutôt qu'une autre? En quoi ça influence l'architecte que vous êtes?
Ce sont des influences qui permettent de prendre du recul. Moi, c'est comme ça que je le prends. En fait. Par exemple, la danse contemporaine, c'est toute l'idée de comment le corps en fait, se déplace dans un espace. Et ça, c'est un thème récurrent dans l'architecture, c'est-à-dire qu'on fait quand même des espaces pour les gens et pour qu'ils puissent utiliser ces espaces. Et donc, il y a toute la notion du rapport au corps qui est très important.
Il y a dans le cahier des charges, je dirais, de l'architecte que vous êtes, il y a du social, il y a du fonctionnel et il y a de l'esthétique.
Oui.
Hein. Donc, avec au bout, on l'imagine, une vision du monde que vous définiriez comment, vous, concernant vous?
Waouh, ça, c'est une question... je dirais pas que j'ai un bâtiment qui est une vision du monde, mais par exemple, j'ai fait un de mes premiers bâtiments qui est vraiment très symbolique pour moi. C'est un immeuble de logements sociaux à Paris dans le 13e, qui est presque sculptural, en fait. Un bâtiment tout en béton, teinté dans la masse, donc très brut, qui a un côté comme ça assez brutaliste. Là, par exemple, pour ce bâtiment-là, on avait, je dis on parce que j'ai travaillé avant avec un autre architecte, on avait travaillé beaucoup sur l'apport de lumière naturelle, donc des grandes baies vitrées, de regarder les cadrages, c'est-à-dire quand on est assis, quand on est debout, qu'est-ce qu'on voit en fonction de l'orientation du bâtiment, etc. On avait offert des espaces collectifs qui sont maintenant des choses qui sont très courantes maintenant, mais à l'époque ça ne l'était pas, et notamment pour les bailleurs sociaux, c'est d'offrir un jardin partagé en hauteur. Voilà, des choses comme ça qui font que ça décale et ça déplace un peu les choses dans le quotidien des gens.
Merci Lewis Balz, c'est l'un de vos éducateurs
aussi,
du regard.
Oui.
C'est quoi la ville idéale pour vous?
La ville idéale?
Pourquoi vous aimez Rome, par exemple?
Rome, pour moi, voilà, c'est un peu un exemple de ces villes où on donne la place aux gens pour vivre l'espace extérieur aussi.
Les trottoirs sont...
Oui, il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir, par exemple. Donc, on n'a plus cette sensation d'avoir une rue avec les voitures, le piéton.
L'espace s'ouvre.
C'est ça. La limite est un peu floue entre voilà, la rue, les bâtiments, et ça, j'aime bien.
J'ai une autre petite question piège pour vous, Françoise Ntepe. Ah. Qu'est-ce que vous pensez d'une ville comme Yaoundé, capitale politique du Cameroun?
Ben, pas grand-chose. je connais moins bien Yaoundé que Douala, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas trouver cette ville très intéressante. Après, elle a sa...
Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Allons-y, l'architecte.
Après, ça, c'est même d'un point de vue plus urbain qu'il faudrait voir les choses. C'est que les quartiers en eux-mêmes ne sont un peu juxtaposés, ne se répondent pas les uns les autres. Et comme dans beaucoup d'autres villes subsahariennes en Afrique, il y a toujours ces grosses artères qui coupent un peu les relations entre les quartiers, etc. Et donc, ça crée un peu des... Je trouve des choses très dures dans la ville, quoi. Donc, pour moi, c'est ça qui ne va pas.
On va prendre l'avion mentalement pour rejoindre donc à 1500 km de Yaoundé, à Bomé, donc au Bénin, où se joue l'étape ultime et la destination finale des 26 biens culturels restitués par la France après leur séjour temporaire à Ouida, au fort portugais. Parce que vous, Françoise Ntepe, vous allez y jouer une carte importante dans ce partenariat franco-béninois. Dites-nous un peu.
Tout à fait, tout à fait. J'ai eu vraiment j'ai l'honneur et la chance de pouvoir être donc l'architecte qui va faire le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey.
Vous avez été sélectionnée sur concours ? Comment ça s'est passé ?
Non, en fait, j'ai repris la suite d'un confrère, en fait. On m'a proposé de reprendre le projet à une autre échelle, on va dire. Et donc, voilà, c'est effectivement, ce musée va accueillir notamment, parce que ce n'est pas seulement les seules œuvres qu'il y aura là-bas, il y aura aussi les œuvres nationales, mais notamment les 26 œuvres qui ont été restituées par la France au Bénin.
RFI, d'ailleurs, en a beaucoup parlé. Hein, il y a eu 35 millions d'euros de l'AFD, soit 23 milliards de francs CFA accordés pour ce projet magnifique. Votre état d'esprit, là, au moment où on se parle par rapport à ce projet ?
Ah, j'ai hâte. j'ai hâte de vraiment de pouvoir le concrétiser. Déjà, c'est un projet qui... Il n'y a pas que mon projet, c'est un projet global. Parce que, en fait, ce projet s'inscrit dans la rénovation des palais des rois de Dahomey, qui existent encore, mais qui sont dans un état très dégradé. Et donc, il y a tout un plan de rénovation et de
restauration,
réhabilitation. Ouais. Restauration. Assez lourde de ces palais en parallèle de mon projet. Moi, je travaille du coup en parallèle de la réhabilitation, mais ça m'a permis de connaître cette culture que je ne connaissais pas, ces palais que je ne connaissais pas. Il faut savoir que c'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est un intérêt patrimonial qui est vraiment assez important pour l'Afrique, quoi.
Alors sur cette question de la restitution des biens culturels, on va prendre une petite minute en sol majeur pour écouter l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, donc auteur avec l'essayiste Fedwin Sarr du rapport demandé par le président Macron autour de la restitution de ces biens. Bénédicte Savoie qui revient sur la nécessité de connaître l'histoire de ces objets exposés.
J'ai le sentiment profond dans mon activité d'enseignante avec différents publics que ces publics, quel que soit leur âge d'ailleurs européen, veulent savoir l'autre face et qu'une fois qu'ils connaissent l'autre face, une fois qu'on dit regarde ce très bel objet-là, il a été pris avec un couteau dans la main par quelqu'un en 1932 qui avait été envoyé par la France, qui l'a déchiré de son lieu d'origine pour le rapporter ou alors qui a payé 3 francs alors que 3 francs ou 7 francs c'était le prix de 5 œufs à l'époque. Et c'est comme ça que ça a été rapporté. Ou alors, ça avait été caché par des systèmes de pression, de menaces. On a trouvé où était l'objet. C'est comme ça qu'il est maintenant dans cette vitrine. Et c'est grâce à ça que Picasso et les autres ont pu ensuite être éblouis. Si on sait les deux choses ensemble, ça ne veut pas dire repentance, ça veut dire qu'on sait. Et le savoir de soi-même, c'est le début de l'avenir.
Alors Françoise Ntepe, il y a effectivement connaître l'histoire de ces objets culturels et puis il y a cette phase de restitution que vous êtes en train de vivre même à distance. Sur la manière de conserver ces objets, ce n'est pas votre boulot à vous, mais si quand même un peu. Donc est-ce que vous êtes dans, on va dire, tant pis, hein, je vais choisir des mots, vous allez me corriger. Vous êtes dans une approche, on va dire, un peu universelle sur la manière de les conserver dans l'esprit de dire il n'y a pas une méthode, mais il y a des méthodes de conservation.
Là, dans ce sujet particulier, c'est que, comme vous le savez, il y a très peu de musées en fait en Afrique subsaharienne, quasiment pas. Et c'est des équipements culturels que les gens ne connaissent pas. Donc, effectivement, il y a cette question universelle de conservation qui est importante. Ces objets, effectivement, qui ont très longtemps, finalement, pendant des années, été conservés dans certaines conditions d'hygrométrie, climatique, etc., vont changer d'environnement. Donc, moi, mon enjeu, c'est de pouvoir aussi, au-delà du scénographe qui va les mettre dans des vitrines comme il faut, avec les bonnes conservations de l'hygrométrie, etc., moi aussi, j'ai un rôle dans la structure du bâtiment pour pouvoir avoir cette préservation et cette conservation de ces objets qui vont devoir s'acclimater à un autre climat, en fait. Et c'est assez compliqué, en fait, finalement, parce qu'il y a ces objets-là qui vont être regardés de très près, justement, par rapport à ça. Il y a aussi les objets nationaux qui sont dans les réserves nationales, qui, eux, ont été préservés différemment. Donc, il y a un peu ce dialogue qui va se créer.
Dialogue franco-béninois à égalité ?
Oh, bah oui, il le faut, à tout prix.
Ouais, non, mais on pose la question quand même.
Oui, c'est vrai, c'est important. Hein ? Oui, oui.
Alors, la question importante pour l'architecte, c'est le lieu. Oui. Dans quel lieu ce musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey va sortir de terre ?
Alors, en fait, le site, ce qu'on appelle la cour des Amazones, les palais existants, en fait, c'est, on va dire, un collage des différents palais qui ont existé, des rois. Il y a eu, pendant 4 siècles, des dynasties de rois. Là, il y en a eu 12, enfin, officiellement, il y en a 12, et une reine. Et en fait, ils ont chacun construit leur palais, les uns à côté des autres, parfois en empiétant sur l'un. Enfin bon, voilà, c'est l'histoire. Et au milieu de tout ça, il y avait une sorte de cour qui s'appelle la cour des Amazones, parce que ça serait en fait l'équivalent d'ici des Invalides, c'est-à-dire la cour d'entraînement de ces femmes.
Des femmes qui étaient des militaires.
Qui étaient des militaires, qui étaient la garde royale, en fait, voilà. Donc qui défendaient les palais. Et c'est là qu'elles s'entraînaient. Donc c'est déjà un lieu assez symbolique en soi. Et donc le musée va être sur cette cour, en fait. Et l'idée, c'est en fait de faire une connexion entre ce nouveau palais qui sera... ce nouveau musée qui sera, qui sera un lien entre les palais, justement, donc historiques, et on va dire une certaine façon de voir l'architecture contemporaine africaine aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas de faire un Guggenheim ou des choses, quelque chose qui soit complètement... approprié.
Anachronique, on
dirait
presque.
Ouais, c'est ça. C'est pas un objet posé dans la ville, même si justement le site, lui, est en plein centre-ville. Mais au contraire, c'est de pouvoir raconter une histoire qui va avec déjà l'histoire existante.
Donc une conception métissée, on va dire.
Oui, exactement. C'est vraiment ça que je défends. C'est déjà, moi, mon expertise sur des techniques, on va dire, européennes, mais en même temps, me servir de l'artisanat et du savoir-faire local pour construire. Donc, je vais construire avec de la terre, une conception écologique, donc un bâtiment bioclimatique, pour pouvoir aussi faire plus, on va dire, offrir quelque chose de plus.
Comment vous le vivez, vous, ce geste de contribuer d'une certaine manière à la préservation et à la transmission du patrimoine béninois ?
Moi, je suis... vraiment comblé.
Ce que vous disiez tout à l'heure, ça arrive pile...
Oui, ça arrive pile au bon moment pour moi dans ma carrière, on va dire. Et d'autant plus que c'est quand même effectivement un projet hautement symbolique et diplomatique et politique, enfin, tout ce qui va avec autour. Et pour moi, c'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler sur ce sujet. Enfin, il y a pas beaucoup d'architectes qui peuvent se dire avoir travaillé sur des sujets aussi importants.
Mais vous n'êtes pas qu'architecte, vous êtes architecte et vous êtes aussi française d'origine camerounaise.
Oui.
Donc il y a tout ça dans le package, si j'ose
dire. Oui, c'est pour moi, on va dire, une première épreuve, beaucoup de pression, mais une première épreuve de retour sur mes terres, même si ce n'est pas le Cameroun, le Bénin, c'est quand même un pays proche, sur les terres africaines. Donc... c'est un projet très important pour moi. J'ai vraiment pas envie de me planter.
Vous vous sentez légitime ?
Ouais. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai, on va dire, assez de recul sur les choses pour me dire que même si je suis pas béninoise, on va dire, je suis une cousine. Hein. Et je suis très fière, au contraire, de pouvoir dire que je suis une femme noire qui va pouvoir le construire, même si j'ai des accointances avec le continent européen. Enfin, ça me dérange pas du tout. And I want you to know I took it with me that when things are thrown away like a daily toast.
Time passes and the constants stay. So if that is how it is, I don't wanna be a star, but a stone on the shore, lone ball frame in a wall, when everything's overgrown. But what she really wanted was my rise and my wrongs, and I wouldn't understand, but I would try to play along. And I want you to know, I took it with me, that when things are thrown away like they are daily, time passes and the constants stay. So if that is how it is, I don't wanna be a star, but a stone on the shore, oh, no frame in the wall, when everything's overgrown. But what she really wants to do is move on to me, and I will understand that I will try to get alone. And I will understand that I will try to get alone. And I will understand that I will try to get alone. And I want to know that I took you with me. And when things are falling,
ça plane hein, dans les bureaux de, des architectes. Pourquoi James Blake avec Overground dans votre en sol majeur, Françoise?
Bah déjà parce que j'adore cette chanson. J'ai découvert ce chanteur anglais il y a peu de temps, il y a peut-être 2 ans. Oui, en fait, c'est assez drôle parce que je l'ai découvert au moment où justement je commençais mes aventures béninoises. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi ce morceau-là. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit dans sa chanson. Parce qu'il dit, voilà, moi je veux pas être une star, et ce qui compte dans la vie, c'est ce qui reste en fait.
Françoise Ntepe, femme noire, architecte, une Amazone du 21e siècle, vous croyez?
Liberté, égalité, fraternité. Lequel de ces 3 mots vous fait le plus défaut dans votre vie de tous les jours?
Alors, liberté, égalité, fraternité. Je dirais l'égalité quand même. L'égalité homme-femme, parce que c'est un sujet qui aussi est récurrent dans notre profession d'architecte. Il y a des mouvements, des associations, des gens qui travaillent et qui œuvrent pour que les femmes architectes trouvent un peu plus leur place.
Oui, liberté, fraternité, tout ça, ça roule.
Ça roule, ouais. Je pense que ça va.
C'est vrai que vous avez l'air assez cool, hein, comme ça. Vous n'êtes pas trop sur le mode guerrière, apparemment. Hein.
Oui, oui.
Mais l'univers des architectes, c'est vraiment un milieu qui a mis un temps fou à se féminiser. Je crois que la première femme architecte en France, ça remonte aux années 20, quelque chose comme ça. Et vous, vous cumulez quand même 2 belles difficultés. Vous êtes femme et issue de la diversité. Donc, est-ce qu'on vous le fait payer? On vous l'a fait payer un peu, beaucoup, pas du tout?
Le fait d'être femme ou d'être issue de la diversité?
Les deux, en général.
Évidemment, les deux. Je ne peux pas dire qu'on me les fait payer. Des fois même, je pense que c'est un atout. Ça peut l'être. Alors, c'est toujours cette question ambivalente de... on a un peu la caution. Hein. Mmh. Parfois, je le sens aussi un peu comme ça. Mais moi, je suis contente de pouvoir faire avancer les choses de cette manière-là. S'il faut passer par là, ça ne me dérange pas. Je le vois plus comme ça. Donc, je ne peux pas dire qu'on me les fait payer. On m'a fait peut-être plus payer d'être une femme que d'être noire avant tout.
Mmh. Enfin, en tout cas, je remarque que vous n'êtes plus associée à un homme. Vous avez votre agence toute seule aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un acte, peut-être, qui n'a rien à voir avec la question de l'égalité. Mais enfin, ce n'est pas un détail. Ce
n'est pas un détail. Je pense que ça fait quand même partie de cette construction que je fais en ce moment. C'est-à-dire, quand j'ai voulu me séparer de mon ancienne associée, c'était justement pour ça. C'était pour me positionner, moi, toute seule, en tant que femme architecte. Et en plus, issue de la diversité, du coup. Mais c'était aussi ça. Je suis sortie un peu de ma zone de confort. C'est pour ça que, même si vous dites que je suis cool comme ça...
Vous êtes... Vous savez, il y a la force tranquille, mais il y a peut-être le féminisme tranquille.
Peut-être.
Est-ce que vous lisez Felwine Sarr?
Non.
En fait, ce que je dis, c'est que le continent africain, bien sûr, dans sa diversité, peut-être qu'il est temps qu'il reconvoque une réflexion sur comment il envisage son futur. Donc, comment il articule les métaphores de son propre futur. Donc, bien sûr, c'est une réflexion sur le présent, une réflexion sur le politique, le culturel, l'économique, le symbolique. Mais généralement, le continent est sous injonction. On lui demande de se développer, on lui demande de rattraper un retard, on lui demande d'approfondir sa démocratie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il me semble qu'il y a une panne dans une production autonome et endogène des métaphores de ses futurs. Donc, pour qu'elle redevienne sa lumière propre, probablement doit-elle s'arrêter 5 minutes et se dire quel type de société elle a envie de mettre en œuvre, quel est son projet, quel type d'individu, quel type d'équilibre entre les différents ordres, ce que j'appelle les différents ordres, c'est l'économique, l'écologique, le culturel, le symbolique, et quel type de projet elle a pour sa propre humanité à elle et pour l'humanité des autres.
Vous ne lisiez pas Felwine Sarr, peut-être allez-vous le lire.
Ah bah complètement, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire.
Essayiste, économiste sénégalais qui œuvre autour de ce qu'on appelle les ateliers de la pensée avec Achille Mbembe au Sénégal. Est-ce que la réponse, on l'a, puisque entre tous vos avions et vos bureaux d'architectes à l'international, comme ça, est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à toutes ces questions, à cette question de l'utopie africaine qui est aujourd'hui en questionnement, qui est repensée par les intellectuels africains eux-mêmes?
Oui, malheureusement, pas assez. Mais il faudrait que je passe plus de temps, je pense, effectivement, à les écouter, parce que c'est vraiment... Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Même par rapport à la jeunesse aujourd'hui africaine, ils ont envie que les choses bougent différemment et plus être forcément sur un exemple européen, etc. Et je trouve que c'est important, effectivement, de se dire qu'il ne faut pas reproduire un modèle... D'ailleurs, il faut se construire d'abord soi-même, savoir où on veut aller et comment on va se donner les moyens pour le faire. Donc c'est sur place qu'il faut le faire, c'est pas en copiant les autres. C'est justement une bêtise. Enfin, moi, je le vois en architecture, là, toutes les architectures des villes africaines qui ont copié donc un modèle dit international, mais qui sont pas du tout adaptés à leur climat, etc. Enfin, c'est une hérésie. Donc les gens commencent, et les jeunes surtout, commencent à se reposer ces questions-là. Ça, je trouve, c'est vraiment super positif.
Donc, sans avoir lu Felwine Sarr, vous avez déjà des réponses, en tout cas en tant qu'architecte, à proposer au continent, qu'on se le dise.
Exactement, c'est ce que j'espère pouvoir apporter, en tout cas.
Une dernière question dans ce petit home sweet home qu'on vous a concocté en sol majeur. C'est quoi votre maison idéale aujourd'hui, Françoise NTP? Est-ce que c'est plutôt un loft, une case, un pavillon de banlieue ou un bois sacré?
Un bois sacré, hein, c'est intéressant ça. Je dirais un loft dans un bois sacré, du coup. C'est vrai que j'ai, dans mon éducation, je suis effectivement plus à l'aise dans un loft. Mais oui, il faut que le loft soit pas n'importe où. Donc pourquoi pas dans un bois sacré, ouais.
Et est-ce que dans cette maison, on s'écouterait Éric Truffaz avec Siegfried pour se quitter en sol majeur?
Bonne idée.
Pourquoi Éric Truffaz?
Éric Truffaz, voilà, on parlait de métissage. Moi, je trouve qu'il a apporté pas mal de ça dans sa musique. C'est-à-dire que c'est un mélange déjà de jazz et de hip-hop, bebop, tout ça. Et il travaille aussi depuis longtemps sur la façon de changer en fait la vision qu'on a sur le jazz. Donc moi, j'aime bien son approche de la musique jazz.
sides. Right about now, not later, cause we can wait. Set sail, oh hey, the dream ship navigators. Like Jonah in the way, we're the sole investigators. Both sides of the equator, back and forth like spoons. Store the force of the raiders, we don't waver. We got to get it on like funky body shoppers. Now guess who is coming to suffer? Not the dreadlocks, the fly bomb, deluxe on the up and ups. Yes, yes, the non-stoppers with the steady flux. Traveling more miles than migratory ducks. You bet it's not the bucks that'll make us run amok. We can never get stuck whining. Life sucks and our sucks. We don't give a hard place in the rock. Our house is in our pockets and no doors locked. And if you're not, there's an answer. So don't you just stand there, come in and let us rock. Watch out from the top to the last living drop. Yes, yes, Lemon, they're on combo. They can't test them on, we blow them down like Lester Young. See, y'all bless them on with mad explosive spontaneity. A bubbling up constantly like a mile a minute. And movement is the way and we take it to the limit. Hyperactive, we hold the world captive by the spirit, the soul flow. We going all up in it, stepping out from the dust and the dirt. Love is the urge and we know what it's worth. Meanwhile, we keep warm, wearing several shirts with the smell of fresh sweat from the flesh of the earth.
Voyage dans la trompette, un sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application. Je vous souffle ça dans l'oreille, Pure Radio par exemple, c'est magnifique. Sur nos réseaux sociaux également, Facebook ou Twitter, ou bien derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Vanessa Escalante. À la semaine prochaine.
Géopolitique, le